Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bon, je suis très intimidée parce que du coup, c'est vraiment, vraiment très gentil ce qui vient d'être dit. Donc, qui je suis? Eh bien, déjà, je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux parce que j'ai grandi avec deux parents universitaires, tous les deux spécialistes de poésie, et donc pour lesquels les mots étaient des éléments fondamentaux. J'ai grandi donc au milieu des livres, avec deux parents qui avaient ce grand plaisir de la transmission et qui avaient un tel plaisir de la transmission qu'ils nous donnaient sans discrimination accès à tout ce qu'ils avaient. Et donc le soir, on ne se rendait pas compte en fait que tout ça c'était de la culture. Et donc le soir, quand mes parents sortaient, ou l'après-midi quand on avait le droit de regarder un peu la télé, eh bien, soit on regardait des dessins animés, soit on regardait des pièces de Molière. Et en fait, dans un cas comme dans l'autre, on rigolait beaucoup et tout ça était très libre. On avait juste le plaisir de découvrir l'humour de Molière sans se rendre compte que, évidemment, c'était du Molière. Donc j'ai eu une chance énorme, ne serait-ce que parce que tout ça c'était beaucoup de liberté qui m'était accordée, et au-delà de la liberté, c'était un patrimoine qui se constituait en effet autour des mots qui ont été très vite très maîtrisés et très vite très nombreux dans mon vocabulaire, tant et si bien que mes camarades de classe se moquaient abondamment de moi parce que je disais que quelque chose était époustouflant au lieu de dire que c'était super. Et du coup, ça m'a mise un peu en décalage, mais un décalage finalement sympathique. J'ai donc été dans un grand lycée parisien, Henri IV. Et puis, à la fin de mon lycée parisien, Henri IV, j'avais quand même envie un peu de m'émanciper de ce côté universitaire du parcours un peu dynastique qui est celui de l'ensemble de ma famille, où on passe donc par un grand lycée, puis par une grande école, puis on fait la grègue et puis après on devient prof. Bon, moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc, j'ai refusé de faire une prépa. Je suis allée en art plastique. Et, mais quand même, en art plastique, je me suis un petit peu embêtée. J'ai tout de suite travaillé. Notamment dans un magazine où justement, j'étais tellement rigoriste sur la forme qu'ils m'ont mise secrétaire de rédaction alors que j'avais seulement 19 ans. En parallèle de ça, vu que j'avais décidé de faire la fac et d'être émancipée, eh bien, j'avais aussi décidé d'avoir mon propre appartement et de subvenir à mes propres besoins. Quand même un petit peu d'aide, mais tout de même, j'ai tout de suite voulu travailler en parallèle de mes études, aussi pour une question de conquête personnelle, de ma propre liberté et donc de mériter ça. Car c'est un luxe d'avoir son propre studio quand on a 19 ans. J'ai travaillé beaucoup, et notamment j'ai travaillé dans des écoles primaires et maternelles de mon quartier. Et là, je me suis rendu compte en fait que j'avais vraiment, 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 vraiment eu beaucoup de chance dans la vie. Je faisais les cantines, et puis le soir venu, je faisais les études pour accompagner les élèves dans leurs devoirs. Et un jour, je suis dans une école, je suis tombée sur un petit garçon turc qui s'appelait Onur et dont les parents étaient turcs également. Et ce petit garçon, il était en CE2, et je me suis aperçue, donc j'avais 19-20 ans, je me suis aperçue qu'en fait, il n'avait pas du tout appris à lire. Il était passé de classe en classe, mais il était un peu passé à travers les mailles du filet, et donc il se sentait extrêmement renfermé, il se sentait mal. Et il se sentait assez honteux, en fait, de ne pas savoir lire. Et donc, on a travaillé ensemble. J'ai fait en sorte de me concentrer sur lui, d'expliquer à ses petits camarades qu'en fait, j'avais besoin de me concentrer sur lui. Ce que j'ai fait, et puis donc on a, jour après jour, décortiqué chaque syllabe, puis chaque mot entier, puis chaque ponctuation, puis les éléments grammaticaux, etc. Et en fait, en 2 semaines, ce qui est quand même excessivement court, Onur savait parfaitement lire, savait distinguer un discours direct d'un discours indirect. Et quand je lui demandais de remplir des textes pour bien vérifier qu'il avait saisi des structures syntaxiques complexes ou simples, il les remplissait avec des mots très positifs à son sujet. Donc, Onur était libre. Par la suite, j'ai effectivement travaillé dans l'édition. J'ai quitté l'édition pour X et Y raisons, mais peu importe. Je suis devenue UX designer. Effectivement, et encore une fois, tous ces passages, tous ces moments où je suis passée d'un lieu à l'autre, c'était aussi grâce à une grande maîtrise des mots. Le fait de pouvoir écrire un mot convaincant, des gens que en fait j'étais faite pour un métier que j'avais jamais fait, eh bien ça m'a permis d'accéder à tout ça sans piston. Donc je suis devenue designer, et pendant que je suis devenue designer, j'ai eu la chance de travailler au MOVE donc en parallèle, je faisais une chronique tous les vendredis matins. Devinez sur quoi ? Eh bien, sur les mots. Sur les mots et sur leur étymologie, donc sur les mots de l'actualité, régulièrement utilisés à mauvais escient, régulièrement utilisés comme des éléments de langage, et donc il s'agit d'éclairer pour comprendre leur sens profond et aider les gens aussi à faire leur propre décryptage. Donc je partais de l'indo-européen pour sortir tout l'arbre généalogique qui avait donné des petites sœurs et des petits frères, des cousins et des cousines à des mots comme liberté, laïcité, etc. Ce qui permettait tout de même de mieux les éclairer de sens. Et puis tout ça m'a mené à septembre 2015, qui a été un grand choc dans ma vie, puisque j'ai appris qu'un lycée parisien, un ancien lycée parisien, était occupé par des hommes et des femmes qui avaient tout perdu, qui évidemment ne parlaient pas notre langue, et qu'on appelle les migrants. J'ai été bouleversée, évidemment, de voir à quel point c'était dur d'être dans une situation d'exil et d'arrachement à sa langue, à sa culture, à sa vie. Du coup, tout de suite, je me suis dit, allez, je vais faire de la logistique, je vais faire des choses, etc. J'étais un peu dans le vital, sauf que eux, en fait, n'étaient pas en fait, vraiment dans le vital. Ils me disaient même qu'il pouvait très bien se passer de nourriture. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était apprendre la langue française. Ils le disaient sans cesse. Et d'ailleurs, si vous parlez avec des migrants, ce que je vous encourage à faire, car c'est très bien de créer du lien, ils vous diront tous la même chose, c'est qu'ils veulent apprendre le français. Pourquoi veulent-ils apprendre le français ? Parce qu'ils sont partis et qu'ils veulent reconstruire quelque chose. Et pour reconstruire quelque chose, il faut maîtriser la langue et donc les mots. Donc on partait de ce constat, et en parallèle, une jeune fille nommée Alison, qui est étudiante à l'ENS, à l'École Normale Supérieure, a forcé les portes de la direction de l'ENS et a ouvert des classes pour les étudiants, pour les migrants les plus diplômés à l'intérieur du lycée Jean Carré. Ça a très bien fonctionné, et puis grâce à elle, du coup, des classes se sont ouvertes après, en université, avec tout un groupe de personnes, et notamment une personne qui s'appelle Héloïse, ça m'émeut de dire son nom, que j'avais remarqué sur Facebook, puisqu'elle était fort active justement en matière de français langue étrangère. Héloïse est ingénieure radio, elle n'a rien à voir avec le français langue étrangère, mais c'est une fille extrêmement pragmatique, et je ne me suis pas trompée en la contactant pour lui proposer un projet qui consistait à ouvrir des classes, nous, pour ceux qui restaient, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas un niveau équivalent au bac. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Et comme il n'y a pas de raison, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose d'ambitieux et leur proposer des cours bien construits avec des professeurs, une stabilité et la possibilité d'accéder au diplôme d'État qui est le DELF. Donc on s'est dit tout ça et on était d'accord. Et donc on était complètement d'accord. Et donc, on a décidé quand même de se nommer. Donc, on s'est nommé, on a cherché. On ne voulait pas de périphrases sur le français, langue étrangère, sur les migrants. On ne voulait pas tout ça. Et on a pensé à ce dieu égyptien qui est l'incarnation du savoir et qui, pour créer justement du commun entre les hommes et leur permettre de communiquer entre eux et de faire circuler la connaissance, a inventé la langue. Et ce dieu, c'est Thoth, T-H-O-T. Et en acronyme, ça fait transmettre un horizon à tous, ce qui était exactement notre objectif. Du coup, on avait notre nom, qui était assez porteur de sens, je trouve, en plus qui est court à écrire pour des personnes qui ne parlent pas nécessairement l'alphabet latin, donc qui est simple à retenir et à écrire. Et puis, vu qu'on était d'accord, on a foncé. Donc, on s'est mis à écrire aux gens, à des hautes instances, pour essayer de savoir si notre projet pouvait être aidé, pouvait être accompagné. Et donc, on a écrit à des hautes instances, et puis en fait, les hautes instances nous ont dit que c'était formidable, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui faisait ça. Donc, on est un peu tombé des nues, on était même un peu estomaqué, et du coup, on s'est dit que, effectivement, on était vraiment au bon endroit. Puis ces hautes instances nous ont quand même dit que sans équipe pédagogique, même avec les meilleures intentions du monde, on n'allait quand même pas aller très loin, que nous, on n'était évidemment pas prof de FLE, et donc il fallait quand même des experts. Donc on a trouvé, on a cherché, mais en parallèle de notre recherche d'experts pour diriger la pédagogie de Thoth, on a continué à taper aux portes. Donc on a écrit notamment à RFI, Savoir, qui produit des contenus innovants pour enrichir la pédagogie. Ce qui nous semblait très important, c'était non seulement la stabilité, évidemment, qui s'impose pour apprendre, c'est-à-dire un professeur, une salle, et pas 15 professeurs, 15 salles, sortir de l'errance associative, qui certes fait ce qu'elle peut, mais tout de même, est une errance et ne réunit pas les bonnes conditions pour apprendre, et par ailleurs, associer des méthodologies innovantes pour faciliter et accélérer l'apprentissage du français. RFI a donc accueilli avec un enthousiasme qui nous a surprise. En fait, on a beaucoup été surprise par l'enthousiasme qu'on a suscité. Donc, le principe de Thoth est a tout de suite voulu s'associer à nous pour travailler ensemble et travailler également à affiner leur méthodologie. On a continué par la suite à taper aux portes, donc notamment à TV5 Monde, qui a également des contenus pédagogiques, eux fondés sur l'audiovisuel, ce qui nous semblait fort important également. Pareil, ils nous ont dit banco. comme de toute façon, il fallait faire les choses. Tout ça, on l'a fait sans se dire qu'on était culotté. Hein. On l'a fait parce qu'il fallait le faire et qu'il fallait faire les choses bien. On s'est vraiment pas posé la question de est-ce qu'on peut ou quoi que ce soit. Juste, on a fait. Et puis on a contacté la Sorbonne, et la Sorbonne, pareil, voulu tout faire pour nous aider. On a eu beaucoup de chance, et donc aujourd'hui, où on en est ? Aujourd'hui, on a une équipe, et j'oublie, entre-temps, le duo Héloïse-Judith est devenu un trio. On a été rejointe par Jennifer Leblon, qui est spécialiste de l'innovation sociale et qui a encore multiplié notre capacité de travail qui était déjà fort conséquente et qui a vraiment créé un véritable pilier dans notre équipe. Aujourd'hui, donc, où en est-on ? On a une équipe pédagogique qui est absolument brillante, composée de deux personnes qui ont une expérience en matière de français langue étrangère absolument époustouflante. On a également une équipe d'accompagnement composée d'une personne qui est référente et d'une autre auprès des réfugiés et d'une autre qui sera donc en quelque sorte assistante sociale et d'une autre qui est experte en orientation professionnelle et permettra donc à l'issue de TOT de donner une voix concrète aux réfugiés et demandeurs d'asile. On a des bénévoles qui se sont proposés en masse pour compléter l'enseignement des professeurs qui, eux, seront rémunérés, des bénévoles 5 étoiles. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai quelqu'un sous les yeux qui est spécialiste de poésie et qui va donc aborder la langue française par la poésie, notamment. Et surtout, on a un crowdfunding à la veille duquel nous sommes, c'est-à-dire enfin, à la veille de la clôture duquel nous sommes. C'est une phrase complexe. Donc, on est à J-1 de la fin du crowdfunding qu'on a lancé. On a réuni 60 000 euros. 60 000 euros, c'est énorme. C'est 1050 personnes qui ont participé jusqu'ici, des centaines qui ont donné 5 euros et quelques-uns qui ont donné beaucoup. Une moyenne de dons à 50 euros, ce qui est tout de même très impressionnant pour un projet qui émerge comme celui que nous portons. On est à 3000 euros de pouvoir ouvrir une quatrième classe. Donc je vous encourage à aller sur Ulule aujourd'hui si vous le souhaitez et à partager notre page d'ici demain. Et on ouvre nos portes le 13 juin. Merci.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.